Nathalie Arthaud, vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière. Voir des célébrations reprendre à Notre-Dame, vous qui dénoncez la religion comme l'opium du peuple, ça vous émeut ?
Bah écoutez, ça donne envie hein, de se réunir pour voilà, faire des réunions politiques, discuter hein, entre travailleurs, chômeurs, petites gens, de ce qui se passe et de façon à s'organiser pour voilà, repartir de l'avant. Voilà.
Mais les célébrations, pas plus que ça.
Non, mais bon, enfin, franchement, aujourd'hui, quand même, dans les entreprises, ça fonctionne. Hein. Il y a des usines qui réunissent des dizaines, des centaines, des milliers de travailleurs, d'ouvriers, tous les jours. C'est vrai dans l'agroalimentaire, c'est vrai dans l'automobile. Bon, voilà, moi, je trouve ça choquant, scandaleux même, qu'on puisse pas se réunir. Bon, alors, dans les salles de spectacle, on en a beaucoup parlé, mais dans des réunions politiques. Et bon, bah, pour ceux qui ont envie hein, de se réunir pour leur culte, bah, qu'ils puissent le faire aussi.
Mais, ils peuvent.
Là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a justement il y a deux poids, deux mesures. Hein. Quand il s'agit d'aller bosser, d'aller fabriquer des profits, là, on peut y aller. Et puis, quand il s'agit de discuter de nos affaires ou de se réunir voilà, pour ce qu'on pense être utile, nos intérêts, ça, c'est plus possible.
Mais les cultes, c'est possible. Autre monument du patrimoine français, Notre-Dame des Prolétaires, si je puis dire, Arlette Laguiller, six candidatures successives à la présidentielle de 1974 à 2017. On va peut-être vous voir ensemble, d'ailleurs. Elle a eu, voilà, on vous voit toutes les deux ensemble. J'ai vu qu'elle a eu 81 ans il y a quelques jours. Comment va-t-elle, Arlette Laguiller ?
Très bien, et toujours sur le pont. Toujours sur le pont, voilà, pour défendre les intérêts du monde du travail et toujours aussi révoltée, avec cette envie de changer la société que je partage évidemment.
Elle milite toujours, vous la consultez parfois ?
Elle milite toujours, voilà, tous les jours. Et encore ce matin, j'étais avec elle. Mais oui, bah parce que quand, vous savez, enfin...
C'est sa vie.
Arlette Laguiller, voilà. Et moi, je connais beaucoup de gens comme ça. Tous les jours, elle trouve des raisons de ne pas accepter la situation, de se révolter et d'avoir envie de changer la société. Et ça, je peux vous dire que oui, ça maintient, hein, ça donne de l'énergie et bien sûr qu'elle continuera de militer jusqu'au bout.
À 81 ans, comme elle, vous conseillerez la Nathalie Arthaud du moment ? Vous militerez jusqu'à la fin de vos jours ?
Peut-être que même la société, d'ici là, aura, et je l'espère, changé de base, hein, si on peut dire.
Bonsoir Adrien, qui va converser avec Nathalie Arthaud ce soir ?
Bonsoir Gilles, bonsoir Nathalie Arthaud. Le principe de cette émission, c'est qu'on donne la parole aux Français, mais je crois que vous le savez, puisque vous êtes une fidèle téléspectatrice, c'est ce qu'on m'a murmuré hors antenne, donc je vais vous présenter les observateurs citoyens qui, ce soir, vous parleront à vous. Les voici. Il y aura Anne Wetter-Tiefrit. Alors Anne, c'est une patronne, on ne pouvait pas tout à fait faire autrement en votre présence. Elle est chef d'entreprise en Alsace, à Bischofsheim. Elle vend des luminaires un peu partout en Europe. Et elle nous dira notamment comment elle a réussi à gérer la crise du Covid dans son entreprise, notamment grâce aux aides de l'État. Théophile Maternic, lui, est étudiant à Paris. Il espère bientôt faire une école de commerce. Mais aujourd'hui, il vous parlera de sujets de société, notamment l'avortement. Et nous serons en direct depuis la Sarthe et son exploitation avec Étienne Fourmont, habitué de l'émission. Bonsoir Étienne, éleveur de vaches laitières et youtubeur aussi à ses heures perdues. Alors il dénonce l'agribashing et nous reviendrons ensemble sur votre vision à vous, Nathalie Arthaud, du monde agricole. Vous pourrez converser, échanger tous les deux dans un instant. À tout de suite, mon cher Étienne.
À tout à l'heure, Étienne. On va parler Covid, évidemment. Fin de la récréation ce soir. À partir de ce soir, à partir de demain, on ne bouge plus. Comment jugez-vous ce confinement ? Vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, mais vous ne trouvez pas ça légitime ?
Fin de la récréation, bah écoutez, Emmanuel Macron aurait pu commencer son intervention comme ça. Hein. Oui, avec ce mépris et cette arrogance, voilà. Moi, je la vis comme ça, cette gestion de la pandémie, à coup d'interdits, de sanctions, de contraintes, d'ordres, de contre-ordres, de couvre-feu à 18h, à 19h, enfin voilà. Je trouve que ça témoigne vraiment, vraiment d'un mépris
propre à Emmanuel Macron. Pour
la population.
Tous les pays du monde ont avancé en marchant,
vous savez,
ni plus ni moins que nous.
Ah mais c'est sans doute pas propre à Emmanuel Macron, parce que toute la société, elle est comme ça en fait. Toute la société, elle fonctionne de cette façon-là, hiérarchique, avec ceux qui sont en haut. Hein, alors, ce sont les présidents, les ministres, les chefs d'entreprise, le grand patronat, qui donnent les ordres, qui décident. Et puis, il y a ceux d'en bas. Il y a les travailleurs, il y a les petites mains qui ne sont bons qu'à bosser, à se taire et à obéir. C'est toute la société qui fonctionne comme ça, de partout.
Et Est-ce que vous avez d'autres idées pour freiner le virus que le confinement ?
Je termine, parce que ce qui s'est quand même passé avec ces annonces mercredi soir, c'est qu'en gros, Emmanuel Macron a dit « débrouillez-vous ». Débrouillez-vous. Voilà, les vacances scolaires sont complètement chamboulées, le calendrier scolaire est chamboulé, maintenant on fait l'école à domicile, débrouillez-vous. Alors moi, je veux bien croire que pour ceux qui ont un peu d'argent, ça soit facile de changer de pied comme ça, de se réorganiser. D'ailleurs, on en a vu, certains sauter dans leur voiture, aller rejoindre leur résidence secondaire. OK, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent trouver une nounou comme ça, au pied levé, il n'y a pas de problème. Mais pour tous ceux qui... n'ont pas ces moyens-là, qui n'ont pas de moyens, qui ne télétravaillent pas. Comment font-ils ? Eh bien, c'est débrouillez-vous. Et leurs enfants, ils sont où ? Et c'est débrouillez-vous. Vous voyez ? Eh bien, ça relève vraiment d'un mépris incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ils se moquent des problèmes, des difficultés, des sentiments, des intérêts des travailleurs,
de ceux qui
font tourner la société. C'est ça, la réalité. Donc oui, j'appelle ça un mépris de classe.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Nathalie Arthaud ? Parce qu'on comprend, évidemment, le chemin que vous déroulez, mais... Qu'est-ce que vous proposez, du coup ?
Ah bah, moi, si j'étais...
Sur le confinement, je ne vous parle pas de... Enfin, j'imagine qu'Adrien...
Sur le confinement, voilà. Pour aider ces gens-là...
Sur la gestion de la crise.
D'abord,
vision de la politique, on en parlera plus tard.
Si, comme je le souhaite, les travailleurs étaient au pouvoir, c'était eux qui décidaient, eh bien, je suis convaincue qu'on n'en serait pas là. Nous n'en serions pas. Pas là.
Covid est sensible à la propriété des actionnaires.
Pas le Covid, ça c'est sûr. Mais moi je suis convaincue, vous savez, que cette course folle là au profit, cette priorité qui a été donnée aux entreprises, il fallait les grandes entreprises, parce que y compris les petits commerces ont été sacrifiés sur l'autel des grandes entreprises. Cette priorité-là, elle a été contre-productive, bien sûr, pour freiner l'épidémie. Regardez ce qui s'est passé dans les transports. Vous savez, le Covid, le gouvernement l'a traqué dans les moindres recoins de nos vies privées. Voilà. Mais dans les entreprises, le Covid continuait de courir. Dans les lycées, les collèges, les écoles, il continuait de courir. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que nous, enseignants, on garde les enfants, de façon à ce que les parents puissent aller travailler. Ça a été une gestion de la pandémie, oui.
Du point de vue des intérêts de
la bourgeoisie. Et moi, je suis convaincue que si les travailleurs, effectivement, avaient été au pouvoir, on aurait fait tout autrement. Et d'ailleurs, si les soignants avaient eu leur mot à dire... Eh ben, les hôpitaux ne seraient pas dans l'état que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, vous avez eu l'air de regretter à l'instant le confinement, donc la fermeture des écoles. Vous êtes prof à Aubervilliers, et vous dites à la fois on devait garder les enfants. Les écoles, là, vu l'état sanitaire, il fallait les fermer ou pas ?
Non, mais ce qui est scandaleux, c'est que ça fait un an qu'on est... Non, mais...
Non, vous voulez pas me répondre.
Mais moi, j'ai fait ma rentrée scolaire en septembre en étant consternée parce qu'il ne se passait rien. Alors bien sûr, il fallait qu'on porte le masque, là d'accord, ok. Mais à côté de ça, tout continuait comme avant. Ce que nous demandions de travailler...
Les écoles fermer plus tôt ?
Les enseignants n'ont jamais demandé de fermer les écoles. La seule chose qu'ils ont demandé, c'était de pouvoir travailler en demi-groupe. C'était de pouvoir justement se réinventer, pouvoir y compris rattraper tout
Donc ce... la semaine dernière, vous auriez souhaité qu'on ne ferme pas les écoles et qu'on instaure des demi-groupes.
Mais j'aurais surtout souhaité qu'on ne soit pas dans cette situation.
Ah bah ça, tout le monde.
Emmanuel Macron nous a mené... Pendant tout un temps, il nous a expliqué qu'il avait, parce qu'il est tellement génial, trouvé un nouveau chemin. Un chemin que personne d'autre n'avait vu, aucun autre chef d'État. Mais lui, il avait vu un nouveau chemin. Il nous a menés au fond de l'impasse. Voilà la réalité. Donc, encore une fois, ceux qui sont confrontés à cette situation, et ceux qui travaillent, ceux qui, justement, ne peuvent pas être à domicile et télétravailler, ils voient les problèmes qui se posent. Ils voient comment les protocoles sanitaires, justement, ne peuvent pas être imposés, mais même dans les entreprises. Moi, je suis frappée de voir qu'il n'y a aucun reportage. Personne ne s'est intéressé à ce qui se passait dans les usines de montage où il y avait des dizaines, des centaines d'ouvriers. Personne n'est allé voir pourquoi les cadences n'étaient pas ralenties alors même que les ouvriers travaillaient avec les masques. Pourquoi on allait à leur reprendre des minutes de pause ? Ah ça, leur interdire d'aller à la cafétéria, ça d'accord, ok. Mais leurs horaires, pas changés, les cadences, pas ralenties, les changements d'équipe, pas réorganisés. Non, il fallait que la machine à produire des profits fonctionne, tourne. C'est ça la réalité de cette gestion de la pandémie. Alors oui, moi je pense que, C'est absolument scandaleux que ce soit toujours les mêmes, les travailleurs, les petites gens, et parlons aussi de tous ceux qui ont perdu leur travail, hein, soit eux qui fassent les efforts, et que de l'autre côté, hein, du côté des plus riches, du côté de ceux qui décident, il n'y a rien, on ne leur demande rien. Finalement, Emmanuel Macron, il est incapable d'imposer aux groupes pharmaceutiques qui détiennent les brevets de fournir les vaccins comme c'est prévu dans leur contrat. Tout ce qui lui reste, c'est de nous commander, de commander la population, comme si nous étions à sa disposition. Tout ça, oui, c'est un mépris que je dénonce, et je le dis et je le redis. Oui, si les travailleurs...
Vous l'avez dit.
Si les travailleurs, ils pouvaient décider, eh bien les choses, elles se passeraient pas du tout comme cela.
Vous avez parlé de vaccins, et justement, le ministre de la Santé a confirmé ce midi l'accélération de la vaccination pour les profs dont vous faites partie. On l'écoute.
D'ici à la fin du mois d'avril, en tout cas, nous souhaitons avoir proposé la vaccination aux enseignants qui travaillent en lien avec des enfants atteints de handicap. Mmh. Ensuite, il y aura l'ensemble des enseignants, mais également les forces de sécurité nationale.
Les profs bientôt vaccinés, est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner, et est-ce que vous lui faites confiance ?
Non, mais moi, je fais confiance aux médecins. Voilà, aux médecins. Aux médecins, je le dis bien. Parce que je fais une différence entre les médecins et les actionnaires de ces grands groupes. Parce
il est médecin, Olivier Véran.
Oui, bah là, en l'occurrence, il est surtout ministre de la Santé. Hein, et il nous a expliqué, tout médecin qu'il est, il a quand même osé nous expliquer que les masques, c'était pas sûr qu'ils soient nécessaires il y a un an. Hein. Tout médecin qu'il est. Et ça, moi, je m'en souviens. Et ça, je crois qu'on s'en souviendra tous. Donc, vous voyez, être ministre, manifestement, ça transforme un homme.
Est-ce que vous souhaitez vous faire vacciner ? Est-ce que vous souhaitez que les profs soient vite vaccinés ?
Moi, je souhaiterais que la vaccination elle aille 1000 fois plus vite. Non, voilà, tout le monde est prioritaire. Tout le monde, mais oui, parce que c'est une question.
Si tout le monde est prioritaire, personne n'est prioritaire.
Et donc, voilà, il faut accélérer la vaccination, absolument, absolument. Et moi, je trouve ça m'écœure ce qui se passe du côté de la vaccination, de voir ces grands groupes là qui se font concurrence, hein, qui s'arc-boutent là sur leur propriété privée, sur leur brevet.
Ils ont trouvé le vaccin en un an, ce que personne, absolument personne, ne jugeait possible.
Alors c'est les chercheurs, les épidémiologistes, oui, qui ont effectivement trouvé le vaccin. Ils ont trouvé ce vaccin, ça a été largement une œuvre collective, parce que, oui, y compris l'ARN messager, c'est quand même des recherches qui datent de plusieurs années. Ça a été fait avec l'argent public. Oui. Et moi, je trouve absolument scandaleux que ça soit, voilà, approprié par quelques grands groupes qui, du coup, se réservent le monopole de produire ces vaccins, alors même qu'ils sont incapables de produire en quantité nécessaire. Okay. Voilà. Et rapidement. Donc, moi, alors encore, autre. Moi, je pense que le minimum, ce serait de réquisitionner
les vaccins.
De réquisitionner ces laboratoires.
Ce que dit également, par exemple, la France Insoumise. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui est à peu près d'accord avec vous.
Les vaccins sont un instrument essentiel dans ce combat face à la pandémie. Dans l'idée d'une internationalisation des vaccins, j'appelle toute la communauté internationale à s'engager ensemble afin de surmonter tous les retards dans la distribution et à favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres.
C'est un camarade de lutte, ce François.
En tout cas, voilà. Lui, il a au moins le mérite d'être humaniste. Voilà, d'être humaniste et de comprendre que oui, on est une seule et même humanité, hein, et que c'est choquant de se dire que finalement seuls ceux qui vont payer les vaccins pourront se faire vacciner. Donc effectivement, tout ce qui se passe là, cette course au profit autour des vaccins, c'est Pfizer, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires.
C'est un pape de gauche, c'est un allié du prolétariat, le pape
non,
François.
Non mais, vous avez des vœux pieux, il y en a.
Et, bah, il n'est pas chef d'État, c'est son métier, lui, de faire des vœux.
En l'occurrence, vous voyez, ça me rappelle aussi ce qu'avait dit
d'un tout petit État.
Ce qu'avait dit monsieur Macron, hein, président Macron, parce qu'il avait dit quelque chose de ce genre.
Il voulait une licence publique.
Qu'il fallait que le vaccin soit sorti des lois du marché. Attention, hein, que le vaccin soit sorti des lois du marché. Moi, ce que je sais, c'est qu'en temps de guerre, tous les chefs d'État savent réquisitionner les industries pour produire des armes. Eh bien, on ne peut que constater que ce qu'ils sont capables de faire pour tuer, ils ne sont pas capables de le faire pour soigner.
Voilà, voilà. Une belle formule.
Et ça condamne, à mon avis, l'organisation capitaliste de la société. C'est accablant.
On va continuer à parler Covid, mais sur le plan économique, comme vous venez de le faire, Adrien.
Et on va écouter Anne, c'est notre chef d'entreprise alsacienne. Je vous l'ai présentée tout à l'heure. Et on a parlé ensemble des aides de l'État dont elle a pu bénéficier en tant que patronne. Alors évidemment, elle assume qu'elle n'aurait pas pu faire sans ces aides-là. On écoute ce qu'elle nous dit, vous réagissez juste après.
Le soutien aux entreprises, c'est important. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le déblocage du PGE. Alors évidemment, c'est un prêt. Tôt ou tard, il va falloir qu'on rembourse et là, ça sera un peu plus compliqué. En revanche, ce qui est pas mal, c'est que ce PGE-là, ça a permis aux entreprises qui structurellement avaient besoin d'un coup de pouce de s'organiser et de voir la suite. Ensuite, il y a toutes ces aides dont on a bénéficié, dont moi aussi j'ai bénéficié, à savoir le chômage partiel. Ce point-là était nécessaire pour que nous puissions maintenir en poste les équipes qui étaient au contact de nos clients.
Donc si on résume, grâce aux aides de l'État, elle a réussi à ne licencier personne. Est-ce que ces aides-là, Nathalie Arthaud, elles ont aidé Anne, la patronne qui sert les intérêts de la bourgeoisie, comme vous le disiez tout à l'heure, ou est-ce qu'elle a aidé les salariés de son entreprise ?
Non, d'abord, je n'ai pas dit qu'il s'agissait donc de la bourgeoisie incarnée. Hein. Voilà, non, quand je parle du grand patronat, la grande bourgeoisie, je parle voilà, des grands groupes industriels et financiers qui font la pluie et le soleil sur l'économie. Je ne confonds pas tout, vous savez, je ne confonds pas tout. Maintenant, vous m'avez posé la question sur le chômage partiel, c'est ça ?
Entre autres.
Le chômage partiel... bien sûr que ça, c'était destiné, hein, destiné en théorie à éviter toutes les suppressions d'emplois, mais des suppressions d'emplois, il y en a eu. Il y en a eu des centaines de milliers. Il y a eu
par rapport mais à ça 600, a permis d'en éviter
600 000.
D'autres.
Oui, mais moi.
Par rapport à la baisse, vous êtes professeur d'économie, par rapport à la baisse du PIB, il y en a eu quand même assez peu grâce au chômage partiel.
Non, mais moi, justement, je ne fais pas des statistiques comme ça. Moi, je sais qu'il y a 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur gagne-pain, ce qui leur permettait de payer leurs factures. Et ça, déjà, en soi, c'est pas acceptable.
Mais 10
ça,
millions,
déjà, en soi, c'est pas acceptable.
10 millions de personnes sont au chômage partiel, et donc 10 millions de personnes vivent, mangent, payent leurs factures, comme vous le dites, grâce à l'État.
Mais encore heureux.
Parce
qu'encore
finalement...
heureux, on les empêche de travailler. On les empêche de gagner leur pain. Vous voulez faire quoi, vous ? Ils sont responsables de quoi ? Ils sont coupables de quoi ?
Vous pouvez me dire ? C'est quelque chose que vous saluez.
Bah, moi, ce que je dénonce, c'est que ce chômage partiel soit pas à 100% du salaire.
84, c'est ça ?
C'est 84. Mais vous savez, c'est pas un petit détail.
Non, pour ceux
qui sont à 1300 ou à 1400 euros. Parce que c'est non seulement 84% du salaire, mais c'est en plus avec toutes les primes qui sont supprimées. Donc pour des millions de femmes et d'hommes, ce chômage partiel, c'est un appauvrissement, c'est une bascule même dans la pauvreté, dans le surendettement. C'est la réalité de millions de femmes et d'hommes aujourd'hui.
Vous avez rêvé d'une économie publique, mais finalement aujourd'hui, on a 10 millions de salariés au chômage partiel, soit la moitié du secteur privé à peu près, 5 millions de fonctionnaires, donc on est quasiment dans une économie étatique comme vous la souhaitez. Je suis content de vous faire rire.
Non, mais oui, là, vous me faites vraiment rire. Excusez-moi. D'abord, moi, je rêve d'une société sans chômage. Voilà, d'une société sans chômage. Avec zéro chômeur.
Mm-hmm.
Et je pense que dans une société normalement constituée, encore une fois, si les travailleurs avaient leur mot à dire, eh ben, je peux vous dire qu'on répartirait le travail entre tous et que ça en serait fini de ces cadences infernales pour les uns, hein, de ces horaires délirants pour les uns et de ce chômage pour les autres. Voilà. Après, vous me dites, l'État met la main à la poche. Ah oui, ça, oui, l'État, il met la main à la poche. Et même, je peux vous dire que l'État, il fait en grande partie ce que, justement, les capitalistes prétendent faire, puisque ces messieurs nous expliquent, voilà, c'est normal qu'ils décident de tout, hein, c'est normal qu'ils contrôlent les vaccins, c'est normal, parce que ce sont eux qui investissent. Et ben, je suis au regret de vous dire qu'ils investissent de moins en moins, et c'est l'État qui investit pour eux. C'est l'État qui fait le boulot.
Alors, voilà. Nathalie Arthaud.
Donc, effectivement, on peut en tirer une conclusion, c'est que ceux qui dominent à la tête de la société, hein, eh bien, en réalité, il n'y a aucune raison.
On a encore une demi-heure ensemble, donc on va pouvoir parler de plein d'autres sujets, ne vous inquiétez pas.
J'ai pas l'habitude.
Mais vous n'êtes pas dans votre classe. On va évidemment parler de politique dans un instant, mais avant, on aimerait vous faire réagir à la polémique du week-end, si j'ose dire. Ça concerne des dîners clandestins. Vous en avez peut-être entendu parler. Une enquête a été ouverte après les révélations de ces fameux dîners, des dîners dîner de luxe sous les ors d'un palais en plein Paris.
Plus de 400 euros le menu,
c'est ça ? Plus 400 euros de menu, et justement, qu'est-ce qui vous choque ? Si vous êtes choqué, bien sûr. Est-ce que vous pouvez être choqué par le fait que des dîners clandestins soient organisés comme ça avec de nombreux convives, ou que ce soit des dîners destinés à une classe bourgeoise avec des menus à 300 euros ?
Bon, j'en ai pas vraiment. Enfin, je me suis pas penchée sur cette information, je dois avouer.
Mm-hmm. Elle est pourtant partout, et sur les réseaux sociaux, oui, bon, et sur de nombreux médias.
D'accord. Bon, enfin, moi, la première des choses, c'est que 400 euros, 300 euros pour un repas, c'est vrai que, voilà, c'est la preuve qu'il y a vraiment deux mondes, parce que je sais qu'il y a des millions de familles qui aimeraient les avoir, les 300 euros, pour avoir de quoi manger pendant un mois. Voilà, c'est ça la réalité de ce pays, hein, et on voit bien, et y compris cette pandémie, vous voyez, elle a fait ressortir toutes les inégalités qui existaient dans la société, elle les a même exacerbées en fait. Parce qu'on n'est pas du tout tous au même, comment dire, voilà, on subit pas du tout la même situation, hein, entre ceux qui ont perdu leur boulot, entre ceux qui continuent de travailler, entre ceux qui...
Est-ce que les organisateurs de ces dîners doivent être sanctionnés de manière exemplaire ?
Non, mais... Alors, bon, d'abord, quelque part, ça me fait rire, cette information, parce que d'habitude, quand on voulait parler de sanctions, on montrait les fêtes des jeunes, vous savez, des jeunes qui... Oui, mais ça fait un an qu'il a subi cette pandémie.
Non, mais voilà, finalement, tout le monde peut être poursuivi.
On parle de... Bon, mais non, mais moi, faut arrêter avec ces sanctions, cette culpabilisation de la population. Faut arrêter. Hein. Il faut regarder les vrais responsables, et leur demander des comptes. Et encore une fois, moi, s'il y en a que j'ai envie de sanctionner, à qui j'ai envie de mettre des contraintes, c'est à ces grands trusts pharmaceutiques pour qu'effectivement, ils ouvrent leur brevet, pour qu'ils renoncent à leur droit de propriété.
Vous l'avez dit.
Mais parce qu'eux, ils ont une responsabilité dans la pandémie. Et c'est d'eux, sans doute, que dépend les mois à venir ici, mais les années à venir à l'échelle du monde. Hein, parce qu'encore une fois, il y a la question des pays pauvres et leur accès aux vaccins.
Le pape l'a dit. Les régionales, on va parler de...
Je vois quelles sont vos références.
Ben non, mais parce qu'on vient de, l'écouter, c'est pas du... Enfin bref. Les régionales, ça vous intéresse ?
Bien sûr, puisque Lutte Ouvrière sera présent, aura des listes. Donc nous présentons des listes dans toutes les régions, et d'ailleurs je serai... candidate dans la région Île-de-France, hein, pour faire entendre les intérêts des travailleurs. Vous savez, les intérêts de ces premiers de corvée.
Mais votre but, le but de Lutte Ouvrière, c'est de changer le système, de renverser le système. Est-ce qu'on peut le faire dans le cadre d'une région ?
Je pense qu'à chaque fois qu'on nous permet de nous exprimer, eh bien, il faut... dire nos intérêts, il faut dire nos perspectives. Et la première des choses, déjà, c'est de dénoncer. Voilà. Et là, dans la situation, il y a de quoi faire. Vous savez, je me souviens d'Emmanuel Macron qui avait expliqué que les premiers de corvée, hein, qui étaient si mal rémunérés, si mal reconnus, si mal considérés dans cette société, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Pour mieux les rémunérer, mais même pas les soignants,
même, si vous étiez
même pas les soignants, n'ont même,
si
même pas obtenu les soignants
même si
ce qu'ils demandaient.
Si vous étiez présidente de région, vous pourriez rien changer à ça.
Non, mais encore une fois, moi, mon souhait et ma perspective, c'est que les travailleurs se battent collectivement, se battent pour non seulement défendre leurs intérêts, mais pour dire nous, on fait tourner cette société, et nous, on est légitime à décider, et on est légitime, à prendre. Apprendre les choses en main. C'est cette politique-là que je défends effectivement à chaque élection, et j'espère que dans ces régionales, il y aura effectivement tous ceux qui ont été révoltés par ce qui s'est passé et qui auront envie de s'exprimer de cette façon-là.
Alors Nathalie Arthaud, j'ai parlé de vous à quelqu'un, figurez-vous, et c'est Théophile, notre étudiant que je vous ai présenté en début de mission, et j'ai voulu lui demander, c'est un peu une question rituelle, ce que vous lui inspiriez. Pas forcément personnellement, mais en tous les cas, ce que vous incarnez. Alors déjà, bonne nouvelle, il connaît Lutte Ouvrière, c'est un bon premier point, mais il trouve votre approche un tout petit peu archaïque.
C'est peut-être archaïque dans le sens où ils vont viser un électorat ouvrier qui est quand même passé en grande partie du côté du Front National pour des raisons sociologique, idéologique. Je pense qu'il y a de moins en moins d'ouvriers qui pourraient trouver satisfaction dans le programme de la lutte ouvrière. Mais ce que je peux au moins lui reconnaître, c'est que rien que dans le nom du parti, elle incarne une certaine gauche qui n'a pas délaissé la lutte des classes. Mais c'est vrai que mettre en avant la lutte contre le capitalisme aujourd'hui au nom de, uniquement de l'extrême gauche, donc avec tout le corpus marxiste, ça ne va pas avoir le même écho qu'il y a 50 ans.
Alors, que lui répondez-vous à Théophile ? Est-ce qu'il a raison quand il dit que les ouvriers se sont détournés de vous pour voter Marine Le Pen ?
Alors, d'abord, moi, je constate que il reconnaît la lutte de classe. Il reconnaît la lutte de classe.
Il le met à votre crédit, en tout cas.
Voilà. Il reconnaît la lutte de classe et effectivement, la lutte de classe, on l'a vu hein, pendant cette pandémie. Parce que, voilà, elle se traduit justement... Hein, par tous ces licenciements.
Mais sur le vote ouvrier dont nous parle Théophile.
Donc voilà, maintenant, je ne vois pas du tout en quoi le Rassemblement national représente les intérêts des travailleurs. Quand est-ce que le Rassemblement national a dénoncé l'exploitation ? Quand est-ce qu'il dénonce le grand patronat, sa soif de profit ? Quand ? Jamais.
Il n'en demeure pas moins que les ouvriers votent majoritairement pour le Rassemblement national. C'était le cas en 2017, par exemple, où Marine Le Pen a engendré 37% du vote des ouvriers.
Majoritairement.
Contre Jean-Luc Mélenchon, qui a engendré 24%.
Majoritairement, les ouvriers votent pour l'abstention. Hein, majoritairement. Parce que justement.
Ceux qui votent,
Parce qu'ils ont été écœurés par toutes les promesses que les politiciens ont pu leur faire à chaque élection. Donc il y a une désorientation. Il y a effectivement tout cela qui pèse dans la situation. Maintenant, je crois que, effectivement, ce qu'on représente. C'est une véritable perspective, encore une fois, pour tous ceux qui ont envie de se battre, tous ceux qui ne se résignent pas à être justement trimballés de politicien à politicien, voilà, qui ne marchent pas dans ces histoires de sauveur suprême et qui ne cherchent pas celui qu'on n'a jamais essayé. Et tous ceux qui veulent se battre, eh bien, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, justement, pour mener le combat.
Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui serait un exemple du régime, du monde que vous voulez instaurer ?
Non, mais vous savez, en ce moment, on commémore les 150 ans de la Commune de Paris. Eh bien là, c'est un exemple vivant, de comment on imagine que la société, elle pourrait fonctionner. C'est-à-dire avec, pendant la Commune de Paris, c'est le peuple de Paris qui a pris son sort en main, qui a décidé, qui a créé, qui s'est représenté lui-même, puisque la Commune de Paris, c'était des prolétaires, c'était des petits artisans, des petits boutiquiers, c'était des femmes et des hommes, comme c'était le monde du travail. Bon. Et ce gouvernement, il a fait ce que jamais aucun gouvernement n'a fait au monde. Il y avait des problèmes de logement, eh bien il a logé, en réquisitionnant. Il y avait des problèmes d'approvisionnement en nourriture, eh bien, il l'a organisé. Il y avait du chômage, eh bien, il a réquisitionné les ateliers qui avaient été abandonnés. Donc, voilà, pour nous, tout ça, c'est une inspiration. Et moi, j'ai cette confiance fondamentale dans le fait que les travailleurs, on voit que d'abord, ils n'ont pas de preuves à donner, en fait, hein, parce qu'ils font tourner toute la société. Ils la font tourner. Et au premier confinement, Ils ont fait preuve de leur dévouement, de leur esprit de sacrifice. Ben moi, je suis convaincue que, justement, si on part des travailleurs et si on leur donne la possibilité d'organiser la société, oui, on peut la réorganiser sur des bases collectives, sur des bases qui offriront enfin un avenir à la société.
Alors, c'est l'heure du direct citoyen. On va entendre non pas un travailleur, mais un travailleur agricole, si je puis dire.
Absolument. Qui se qualifie un peu comme un chef d'entreprise aussi, quand on est agriculteur. Et c'est le cas d'Étienne Fourmont dans la Sarthe. On prend la direction donc de Viré en Champagne. Bonsoir, Étienne. Vous êtes éleveur de vaches laitières. Nathalie Arthaud a été candidate 2 fois à la présidentielle déjà. Peut-être le sera-t-elle l'année prochaine. Elle nous le dira peut-être tout à l'heure. Mais on va revenir sur une interview de vous en tant que candidate, Nathalie Arthaud. Vous l'aviez donnée en 2017 sur un site qui s'appelle actuenvironnement.com. Et vous parliez d'agriculture dans cette interview. Et vous disiez que notamment, l'agriculture, vous estimez qu'elle est intégrée à un système capitaliste. Et j'ai envie de demander à Étienne ce qu'il en pense. Est-ce que, Étienne, vous vous considérez comme un capitaliste ?
Alors, bonsoir à tous. Moi, personnellement, je vous... Je peux vous dire que je ne me considère pas du tout comme un capitaliste, je me considère comme un agriculteur, un paysan, un chef d'entreprise, alors une petite entreprise, même si j'ai mes 75 ouvrières qui sont au boulot en ce moment, où il y a un robot de traite derrière, il y a des vaches qui sont en train de traire. J'ai fait un vélage il y a 20 minutes avant l'émission, donc je suis un agriculteur, un paysan, un éleveur de vaches laitières, mais surtout pas, pas un capitaliste, même si je touche déjà de la PAC quand même.
Absolument. Politique agricole commune. Dans cette même interview de Nathalie Arthaud, il y a une phrase qui m'a interpellé et j'aimerais vous faire réagir. Étienne, vous avez écrit précisément, enfin dit précisément, je ne crois pas à la spécificité d'un modèle agricole français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Étienne? Est-ce que vous estimez qu'il y a une agriculture française et un modèle français?
Évidemment, je considère qu'il y a une agriculture française et qu'il y a un modèle français. On a la chance d'être le pays des mille fromages avec des fermes à taille humaine, des fermes familiales, parce que moi, je suis la cinquième génération sur la ferme. Tous mes voisins autour de chez moi, c'est des agriculteurs qui sont là de père en fils ou de père en fille. Donc, on a une spécificité française quand même de l'agriculture française avec notre gastronomie qui est au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. On a des spécificités dans chaque région sur des fromages, des viandes, des légumes. Voilà, on a plein de choses en France qui font qu'on est quand même très particulier. On a l'alimentation la plus durable du monde, on va quand même s'en féliciter. Donc évidemment que l'agriculture française, que j'essaye de faire à mon petit niveau, est une spécificité bien française.
L'exception agricole française, comme il y a l'exception culturelle française. Qu'auriez-vous envie de répondre à Étienne, Nathalie Arthaud? On revient, je le rappelle, sur des propos que vous avez tenus en 2017. Est-ce que vous les maintenez? Est-ce que vous dites toujours, ben oui, il n'y a pas d'agriculture spécifique française alors qu'Étienne vous dit le contraire?
Non, mais surtout, Étienne est fier de ce qu'il fait, et ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et
vous n'êtes pas fier de l'agriculture française?
Il a raison d'être fier et de penser que voilà, son travail, c'est du bon boulot. Mais bien sûr, moi, là où je pense que vous êtes un peu malhonnête, hein, c'est quand vous expliquez que. Je dis que l'agriculture est intégrée au modèle capitaliste et que donc Étienne est capitaliste. Mais non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Parce que
c'est pas ce que j'ai dit non plus. Hein, je lui ai posé la question.
Nous sommes tous intégrés dans ce modèle capitaliste, sauf qu'il y en a qui sont effectivement des capitalistes qui vivent du travail des autres. Et puis il y a des travailleurs. Et pour moi, Étienne, c'est un travailleur. Il appartient en réalité au camp des travailleurs. Après, l'agriculture, c'est comme tous les domaines économiques, il y a ce critère de rentabilité, il y a ces lois du marché, il y a cette concurrence, et malheureusement, tous les agriculteurs, et en particulier les plus pauvres, sont complètement piégés par cette pression de la compétitivité.
Merci beaucoup. Merci Étienne. Vous êtes un travailleur ou pas? Rapidement, oui ou non?
Ah, ouais, évidemment, je suis un travailleur, mais comme tous les chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise, comme tous les patrons qui ont créé leur entreprise et qui embauchent des personnels, évidemment, on est tous travailleurs.
Merci mille fois, Étienne Fourmont, d'avoir été avec nous. Bon baiser à tous les Sartois qui nous regardent. On va parler d'un autre sujet maintenant, un sujet de société, Nathalie Arthaud. Vous savez que c'est le 50e anniversaire du droit à l'avortement et donc aussi celui du manifeste des 343. Et c'est pour ça que ce week-end, 343 femmes ont signé une tribune dans le JDD, le journal du dimanche, pour réclamer le droit d'avorter au-delà du délai légal de 12 semaines qui est actuellement en vigueur en France. J'en ai parlé à Théophile Maternic, notre étudiant que vous avez déjà entendu, qui lui est assez mitigé sur la question. Il est pour l'avortement, mais rallonger le délai, pas sûr.
Je pense qu'il faut quand même être un minimum religieux, par exemple, pour condamner l'avortement inconditionnellement, se dire que vraiment, bon, dans tous les cas, il faut garder l'enfant. Voilà, moi, je considère quand même que si une femme n'a vraiment pas décidé, n'a vraiment pas eu le choix, n'a pas du tout prévu cette grossesse, pour moi, c'est évident qu'il faudrait être beaucoup plus tolérant sur l'avortement. Maintenant, dans le cas où elle aurait pris moins de précautions, que sa grossesse lui serait quand même largement imputable et que, voilà, sur une espèce de caprice, elle décide de changer d'avis, de jeter l'enfant, au bout d'un délai déraisonnable, là, je pense qu'il faut être un petit peu plus pointilleux et exigeant sur les conditions.
Alors, non à l'IVG de confort et ou de caprice, c'est un peu ce qu'il a dit pour résumer ses propos. Vous étiez morte de rire en l'écoutant. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est donc elle aurait été, comment dire, elle n'aurait pas fait attention, etc. Enfin bon, mais en général, enfin on est deux, hein. On est deux pour voilà pour être pour faire un enfant. Donc quid de la, enfin bon voilà, dans ce que dit Théophile, il manque quand même la responsabilité du père, mm-hmm. hein, voilà, en l'occurrence
du géniteur, en l'occurrence
voilà du géniteur. Donc bon, ça me fait un petit peu rire. Hein, voilà, la faute de la femme qui aurait pas pris assez de précautions, qui etc. Non, tout ça, moi je peux pas l'entendre. Effectivement, un enfant, ça doit être un choix. Un enfant doit être désiré. Et moi, je suis, oui, favorable à cette extension du délai. Hein, pour l'IVG, mais je ne suis pas du tout sûre que le gouvernement ait le courage...
Une partie du groupe majoritaire.
Ait le courage d'aller jusque-là.
C'est vrai que c'est une question. Merci Adrien.
Merci beaucoup Gilles, merci Nathalie.
Vous n'êtes pas là, on vous entend parler d'IVG et d'avortement, mais l'Out ouvrière n'est pas très présent sur les sujets sociétaux. On a l'impression que pour vous, il n'y a que les rapports de domination sociale qui comptent et moins les sujets de société comme l'avortement ou d'autres.
Ah non, en particulier sur l'avortement, justement, hein, dans toute cette période où il a fallu se battre pour l'arracher. Parce que, bon, bien sûr, Simone Veil a effectivement fait cette loi, mais ça a été dans un contexte de lutte très importante. Mm-hmm. La lutte ouvrière a pris toute sa place, et en particulier, y compris Arlette Laguiller, a pris toute sa place dans ce combat. Et c'est, je crois, important de continuer ce combat, absolument.
Bien. Alors, c'est l'heure de la confrontation avec un interlocuteur qui va rentrer sur le plateau d'un instant à l'autre. Il a 22 ans. Il aurait pu être votre élève. Il est militant, mais il n'est pas votre camarade. Bonsoir, Hugo Viel.
Bonsoir.
Vous faites partie de ce qu'on appelle la génération climat. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Vous luttez pour une révolution climatique plus que pour une révolution communiste, comme le fait Nathalie Arthaud. Est-ce que vous avez le sentiment que Nathalie Arthaud se trompe d'urgence ?
Je ne dirais pas qu'on se trompe d'urgence, c'est juste que moi, je suis engagé depuis quelques années. Et il y a un moment, il y a eu un déclic, on a compris l'urgence de la crise climatique. Et la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est... vous parlez beaucoup des travailleurs au pouvoir, etc. Mais en attendant ce grand soir et ce moment où les travailleurs seront au pouvoir, comment vous avez envie de traiter l'urgence climatique ? Comment vous la ressentez ?
Je pense exactement comme tous ces jeunes qui sont engagés autour de vous. C'est-à-dire, il y a une urgence, oui, bien sûr. Et on a vraiment le sentiment qu'on court dans le mur, à tous les niveaux. Je crois que sur le constat, en fait, on sera d'accord. Que ce soit sur le réchauffement climatique, la déforestation, enfin bon, bien sûr. Je pense que il est important de réaliser hein, que... on peut avancer de belles idées pour moins polluer, pour essayer de ralentir les choses, mais tant que sont les grands
lui,
groupes,
ce qui fait balancer de bonnes idées, c'est tout.
J'ai pas non présenté, bien sûr, de défendre des objectifs, y compris des objectifs d'émissions de carbone. Enfin bon.
Et puisqu'on est d'accord sur le constat, comment vous voilà. L'incluez dans votre discours et comment vous faites le lien justement entre la question sociale et la question environnementale?
Mais moi, je pense que c'est justement là, c'est fondamental parce que il faut réaliser que. Qu'il y a une classe aujourd'hui qui domine sur toute la société, sur toute l'économie, et qui impose ses propres choix. Ses propres choix, finalement, ils choisissent pour l'écologie, exactement comme ils choisissent pour la vie des travailleurs. Mais c'est des grands groupes. Des grands groupes, ce sont des
ça
grands...
Ça n'est que ça.
Ben, c'est
l'écologie
surtout ça.
Sonnait là
c'est
aussi qu'un rapport de 2000
ans. Excusez-moi, mais l'écologie, moi, je pense qu'elle ne se pose pas en termes, en tout cas, posée uniquement l'écologie en termes des comportements individuels, c'est faire fausse route. L'écologie, c'est un problème collectif. Cela pose le problème de comment on organise la société, comment on fabrique notre énergie, comment on organise les transports, comment on se nourrit, comment on organise le travail.
Vous voyez pas dans les manifs écolos.
Et moi, ce qui je suis convaincue que si on laisse les manettes de cette économie dans une classe, à une classe capitaliste qui ne jure que par le profit, En gros, c'est je fais mon argent, hein, après moi le déluge. Eh bien, on ne pourra rien réaliser. Donc, il y a un bras de fer, effectivement, à conduire à ce niveau-là. Il y a à renverser cette classe-là qui est un alors, obstacle vous, pour moi. Et juste, je termine, y compris le choix.
C'est plus
oui, non, mais
il faut le laisser parler.
Justement, pour que je m'explique complètement, c'est que cette classe sociale-là, elle peut être effectivement renversée par qui? Eh bien, je pense justement par le monde
et
donc, du travail.
Et justement, et là, je vous rejoins sur ce sujet-là, où il y a un rapport d'Oxfam qui a été publié très récemment, qui montre que les entreprises du CAC 40 nous guident vers un monde à plus 3,5 degrés Celsius de réchauffement. Mais du coup, donc on a ces grandes entreprises qui nous emmènent droit dans le mur. On voit très bien les lobbies qui sont à l'œuvre, justement, avec la loi climat qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Et si les travailleurs étaient au pouvoir, comme vous dites, ce serait quoi les choses que vous ferez? Comment vous mettrez en œuvre cette transition écologique ou cette révolution écologique, du coup?
Bah, déjà, il y aurait quand même ce bouleversement total. Hein, c'est que la société
ne serait... Mais à part dire...
Ah bah, alors, j'ai dit deux mots.
C'est exact. Mais parce que je sais que vous alliez dire la même chose qu'il fallait...
Bah alors, allez-y, répondez peut-être à ma place, M. Bornstein. Peut-être que...
Je vous en prie.
Vous expliquerez mieux.
Allez-y.
Non, je pense que voilà, les travailleurs, eux, ne seraient pas aveuglés par les profits, par la rentabilité.
Mais ça ressemble à quoi concrètement? Par exemple, il y a la loi climat actuellement à l'Assemblée.
Ça ressemblerait.
Du coup, c'est quoi les mesures
Les travailleurs au pouvoir.
Maintenant que je vous ai écouté, je peux le dire.
Et une société.
Quelle que soit la question qu'on vous pose, vous dites il faut que les travailleurs reprennent le pouvoir et ça guérira
non,
tous les maux.
Non, pas qu'ils reprennent, qu'ils le prennent.
D'accord. Et ça guérira tous les maux. Et j'ai l'impression qu'Hugo essaye de vous dire ça suffira peut-être pas, il faut peut-être autre chose. Enfin, tout à l'heure, vous nous avez dit on ne se trompe pas d'urgence, mais si. Parce qu'en préparant l'émission, vous nous avez dit très clairement on n'a pas le temps pour le grand soir.
En effet, on n'a pas le temps pour le grand soir. Et du coup, là, c'est ce que vous dites. Vous dites les travailleurs doivent arriver au pouvoir, sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Et du coup, comment on avance à partir de là? Parce que là, on vient d'entrer dans la décennie critique, on est en 2021. Les scientifiques nous disent qu'on a jusqu'à 2030 pour pas dépasser un certain seuil et pour pas émettre plus de CO2 et plus de gaz à effet de serre que l'atmosphère et que la planète ne peut en supporter. Et du coup, à partir de là, on est dans une telle urgence qu'il faut réussir à avancer. Et cette révolution, elle ne va pas arriver tout de suite, ou en tout cas, moi, je ne la vois pas, et j'étais assez d'accord avec ce que Théophile disait sur le fait que votre discours, aujourd'hui, parle à très peu de personnes. Hein. Et du coup, comment, à partir de là, on avance, et que peut-être comment vous allez réadapter votre discours à l'aune de cette urgence écologique?
Si on abandonne cette perspective de réorganiser l'économie sur d'autres bases, de l'organiser collectivement, en faisant nos choix justement ensemble, et des choix qui correspondent aux intérêts du plus grand nombre, des choix qui justement respectent à la fois les hommes et la planète. Si on n'a pas cette perspective-là, on n'arrivera à rien.
Vous parlez aussi de démocratie, du coup.
Mais bien sûr, la société communiste avec les travailleurs au pouvoir? Ça veut dire organiser la société de façon rationnelle, produire ni trop peu, ni trop produire pour satisfaire d'abord les besoins en respectant, en rationalisant les choses et en planifiant. Parce que aussi, le problème de la société capitaliste, c'est qu'il n'y a rien qui est planifié. C'est un gaspillage sans nom, cette société capitaliste. Alors même que justement, si on veut rationaliser l'utilisation des ressources, il faut l'organiser, il faut le planifier. Et ça ne peut être fait que collectivement.
Mais du coup, moi, je suis assez d'accord avec vous sur le point de toute manière, il faut engager la transition écologique. Et en effet, là, on parle d'anthropocène, il y en a qui parlent aussi de capitalocène. Et du coup, je vous ai demandé concrètement à quoi ça ressemble. Vous dites que c'est les travailleurs qui vont le faire. Mais est-ce que vous avez des exemples, par exemple, si, admettons, vous êtes élu à la région, à la tête de la région Île-de-France, qu'est-ce que vous mettrez en place concrètement?
Non, mais élu à la région Île-de-France, ce n'est pas les travailleurs au pouvoir, hein, encore une fois. Hein. Les travailleurs au pouvoir, c'est effectivement le renversement de cette société, de cette logique capitaliste où il n'y a que le fric qui compte.
Oui, mais
c'est
coup,
ça
vous dites
le problème.
Compte, mais vous dites
il
pas
faut
pour...
qu'il y ait une société où il n'y a pas que le fric qui compte, où les hommes et la planète compte aussi.
Nathalie,
et ça ne peut se faire que si on renverse, effectivement.
Voilà,
il faut exproprier les grands groupes capitalistes.
Nathalie,
il ne faut plus qu'ils soient dans les mains d'une minorité qui ne jure que par les profits qu'ils pourront en retirer.
À toute cette génération qui considère que le climat est une urgence absolue, la seule réponse que vous avez depuis le début de l'émission, c'est il faut renverser les rapports sociaux.
Oui.
Et lui, il vous dit,
oui.
D'accord. Mais lui, il vous dit, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en attendant de le faire, Qu'est-ce qu'on fait? Et vous n'arrivez
alors,
pas.
En attendant, on a eu combien de ministres de l'écologie? Nicolas Hulot, dernier grand ministre de l'écologie, il a démissionné. Il a démissionné pourquoi?
Parce que les lobbies étaient trop forts.
Parce qu'il a expliqué qu'il était confronté à ce mur. Bon, alors moi je veux bien qu'on nous explique que, bah oui, il faut faire par petits pas, que peut-être avec un ministre et sans changer le capitalisme, les choses pourraient être améliorées. Mais la réalité, c'est que même ceux qui l'ont tenté, et combien de fois,
ce que fait Hugo, tant qu'il n'y a pas de révolution, vous dites que tant qu'il n'y aura pas de révolution, tout ce qu'on peut faire ne sert à rien.
Parce que je crois que justement,
cette génération, c'est terrible.
C'est une génération qui se bat. Qui se bat, qui se mobilise, qui fait pression par en bas, qui a justement des rêves, qui a des envies, et qui se pose toutes ces... c'est vous qui le dites, mais c'est pas sûr qu'on ait tant de différence que
ça. Est-ce qu'on n'arrive pas à se rejoindre sur certains points? Justement, quand vous parlez du capitalisme, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que de toute manière, le capitalisme doit être renversé et on doit arriver à une nouvelle économie. Mais du coup, est-ce que...
Vous voyez que nous sommes d'accord sur un certain nombre de points arriver, et ça va bien plus loin que ce que vous dites.
Réussir à l'aborder du prisme écologique avec l'urgence écologiste, justement, ça ne nous engage pas à aller plus vite et à aller plus loin et justement à apporter un renouveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, dans votre discours, on ne l'entend pas assez et peut-être qu'il y a le besoin de changer de discours pour aller toucher peut-être plus de personnes aussi, en tout cas l'inclure plus, parce que moi, je suis très sensible à ce que vous dites. Oui. Mais du coup, comment on arrive à aller les deux? Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et la justice sociale n'ira pas sans la justice écologique et vice-versa.
Fin du débat. Merci beaucoup. C'était passionnant. Enfin, c'est un certain constat de désaccord, mais je trouvais ça assez...
Et aussi d'accord.
Et aussi, d'accord, vous n'avez pas tort. Autre aspect qu'on n'a pas... Merci beaucoup. Restez avec nous, il reste 4 minutes d'émission, 3 minutes d'émission. Est-ce qu'il y a des réunions non mixtes à Lutte ouvrière et des réunions réservées aux minorités?
Non. Non, et ça ne viendrait à l'esprit d'ailleurs de personne. Voilà. Et, bon, je ne sais pas, je vous donne un exemple... Écoutez, Lutte ouvrière, comme beaucoup d'organisations politiques...
Donc vous ne défendez pas l'UNEF sur ce coup-là?
Ah mais je défends complètement l'UNEF. Ah ça oui, je défends complètement l'UNEF. Parce que là, c'est une cabale qui est montée
mais
de toutes pièces contre,
l'UNEF.
Mais vous croyez que c'est parce que l'UNEF a organisé 2 réunions non mixtes en un an qu'il y a cette meute-là qui s'en prend à l'UNEF? Non. C'est parce que l'UNEF est un syndicat étudiant, parce qu'il a mis le doigt sur la misère étudiante, c'est pour ça qu'on s'en prend à l'UNEF. Alors moi, je peux vous dire que je suis solidaire avec l'UNEF contre le gouvernement.
D'accord, je n'aurais pas dû vous lancer sur le principe de ces réunions non mixtes. Pourquoi êtes-vous contre?
Mais encore une fois, Lutte ouvrière, non, on ne fait pas de réunions non mixtes. On n'en a absolument pas le besoin. On est une organisation politique qui est à majorité composé d'hommes, comme malheureusement beaucoup d'organisations politiques et syndicales. Bon, eh bien, c'est cette majorité d'hommes qui a fait le choix d'avoir une porte-parole femme, Arlette Laguiller. C'était en 1974, la première organisation, parce que justement, on est une organisation révolutionnaire, justement. Donc, vous voyez, quand on est engagé pour un combat commun, on doit se battre. En commun.
Ensemble.
Voilà, ensemble. Et moi, ce que je pense, c'est que le combat des travailleurs et le monde du travail, vous savez, il est composé de femmes, d'hommes, de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau. Et on gagnera pas
pour mot
si nous ne sommes pas ensemble.
C'est quand on est engagé dans des combats, on les mène ensemble. C'est mot pour mot ce qu'ont dit les critiques de l'UNEF de gauche. Le Parti Socialiste a dit, par exemple, quand on est engagé contre des combats contre le racisme, on le mène ensemble.
Non, mais moi,
quand on est engagé contre des combats, dans des combats féministes, on les met. C'est pas grave d'être une fois de temps en temps d'accord avec eux. Vous n'allez pas en mourir, je vous garantis. Mais vous avez dit la même chose que...
Bon, écoutez.
Dernière question. Pour lutter contre le racisme aussi, il faut renverser les rapports sociaux ou c'est autre chose, le combat contre le racisme?
Je pense que dans cette société, effectivement, ceux qui règnent, ceux qui dominent, ils cherchent à nous diviser de toutes les façons. Donc, en plus de l'exploitation, il y a un tas d'oppressions qui s'ajoutent, qui perdurent. On est au 21e siècle et on en est encore là. encore là. Et ça, moi aussi, ça fait partie des choses qui me révoltent. Ce racisme, ce sexisme, hein, ce rejet de l'autre, de l'immigré, du migrant, etc. Tout ça, ça me révolte.
Mais il est inhérent au capitalisme,
ah, je pense que oui, c'est lié à ces rapports de domination qui empêchent justement les femmes et les hommes de vivre et de décider ensemble, de former une véritable collectivité. On est traversé de rapports hiérarchiques, de rapports de domination et d'inégalité dans cette société. Donc oui, moi je pense que fondé sur d'autres bases, hein, et justement, encore une fois, le monde du travail, c'est un choix parce que à la fois, c'est ceux qui ont intérêt à changer la société, mais c'est ceux qui portent en eux-mêmes une société collective,
voilà,
où tout le monde, chacun, voilà, aura sa place.
Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Merci Hugo, merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été l'invitée de votre Instant Politique. Vous serez candidate en 2022 ?
Oui, je serai candidate en 2022.
Très bien.